Paso doble.
Paso doble.
Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Yatsatouf.
Bonjour Toufik Hakem.
Vous prononcez très bien mon nom.
D'ailleurs, c'est comment en arabe? C'est Toufik Hakem ou Hak?
Bah oui, c'est bien.
C'est
ha.
Hakem.
Et vous, c'est Satouf?
Al-Satouf.
Al-Satouf. Vous poursuivez donc le récit en BD de votre enfance au Moyen-Orient après la Libye. Tome 1, la Syrie, le pays de votre père. Tome 2, le tome 3 se déroule dans un village austère, toujours en Syrie, qui a pour nom Ter Malah.
Ter Malah.
Ça veut dire quoi?
Eh bien, ça n'a pas vraiment de sens parce que c'est un mot, je m'étais renseigné pour savoir ce que ça voulait dire. Et ça signifie le pays de l'eau, je crois. C'est un mot qui remonte à la Rome, quand c'était une colonie romaine.
Ça ressemblait à quoi?
C'est un petit village fait de maisons pas terminées, en béton, avec des petits bouts de ferraille qui dépassaient sur le toit, et des cordes à linge un peu partout, et le tout dans un décor un petit peu bucolique, extrêmement froid en hiver et extrêmement chaud en été. C'était le climat continental. Et avec, eh bien, hélas, aucun service de... À cette époque-là, dans les années 80, pas de service de déchets. Donc il y avait des ordures partout dans le village. C'était assez sale.
Vos souvenirs, l'action se déroule entre 85 et 87. Et cette fois-ci, dans le tome 3 de l'Arabe du futur, édité par Alary, je rappelle. Cette fois-ci, le petit Riyad va découvrir que la violence fait partie de la vie. Et que sa mère n'en peut plus de rester dans ce village paumé pour aller très vite. C'est le début de la conscience de...
Bah, disons que,
prise de conscience.
Que dans ce volume, voilà, c'est vrai que la mère commence à prendre de l'importance parce qu'elle ne supportait plus la vie dans le village, parce qu'il y avait pas, il y avait peu d'électricité par jour, il y avait des pénuries alimentaires, c'était difficile de trouver de la nourriture. Et mon père avait du mal à gagner de l'argent. Et donc elle a envie de rentrer en France, et mon père, lui, il est tiraillé entre faire plaisir à sa famille... à sa mère notamment, ou essayer de devenir quelqu'un en France. Donc lui, ce qu'il décide, et ce que je raconte dans ce volume, sans trop spoiler,
c'est, il faut pas, ouais.
C'est qu'il il va tenter de devenir quelqu'un d'important dans le régime, justement, et non pas pour s'éloigner à la fois, pour suivre son propre chemin. Donc je raconte ses tentatives.
Mais cette fois-ci, la mère, effectivement, prend beaucoup plus de place. Il faut dire qu'il n'y a rien à faire pour votre mère, hein. C'est-à-dire, mis à part d'essayer de reconstituer le puzzle de Saint-Malo avec ses... je ne sais pas combien de pièces dans ce...
C'est 5000.
pièces.
Non, voilà, tout à fait. C'est vrai que je raconte, je me rappelle, ma mère était ramenée des puzzles gigantesques qu'elle mettait des mois et des mois et des mois à terminer. Parce qu'il y avait, en effet, il n'y avait rien à faire dans ce village. Elle était la seule européenne. Elle ne parlait pas arabe et c'était quasiment impossible d'aller à Homs à côté parce qu'il fallait y aller en bus. Enfin, elle ne pouvait pas parler, elle ne savait pas comment se débrouiller. Et donc elle restait à la maison, elle s'occupait de ses enfants. Donc je raconte ça.
Et l'enfant, c'est-à-dire vous avec votre petit frère Riyad, l'enfant voit enfin son père devenir peut-être le héros qu'il rêvait, parce que dans les deux tomes précédents, l'enfant avait une certaine attirance, pour lui son père était un héros. Là, il reste le héros malgré tout, mais quand je dis malgré tout, parce qu'il voit bien que ce père est déchiré entre les aspirations de sa femme, et puis le poids des traditions familiales. C'est l'autre grand sujet de ce tome 3, Riyad Satouf.
Ben oui, tout à fait, c'est vrai que je me suis souvent... je trouvais ça intéressant d'essayer de parler. En fait, dans l'Arabe du futur, je parle de la fascination d'un petit enfant pour son père, donc moi pour mon propre père, et qui était un père assez défaillant parce qu'il était assez très violent. Il avait des pulsions mégalomanes. Et c'est vrai que de parler, d'essayer de raconter comment on peut sortir de sa condition, quitter sa famille,
rompre
avec sa famille.
Et les traditions.
Rompre avec sa famille, rompre avec les traditions, rompre avec ses origines, aller au-delà, s'émanciper en fait. C'est vrai que la recherche de l'émancipation, c'est un thème que je trouve passionnant parce que dans toutes les cultures, il y a ce conflit entre tradition et modernité, comment allier les deux. Et je crois que mon père était un bon représentant de ce conflit. Pour lui, l'arabe du futur, c'est ce que j'expliquais dans le premier volume, c'est que c'était une phrase qu'il disait tout le temps quand je voulais pas aller à l'école. Il me disait, mais tu dois aller à l'école parce que l'arabe du futur va à l'école. C'est une forme générale pour expliquer que l'arabe moderne ou l'arabe du passé était un arabe illettré et analphabète qui n'était pas maître de son destin. Donc mon père était obsédé à l'idée que le monde arabe prennent son envol, se libèrent de l'influence des grandes puissances, entrent dans la modernité. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un autre aspect, c'est que mon père, pareil, il était pour la modernité, mais en même temps, il croyait au diable, il croyait aux forces du mal, il croyait qu'on avait un destin, ce qui est souvent le cas des gens qui viennent d'un milieu très défavorisé et qui ont réussi à devenir quelqu'un. Ils pensent qu'ils ont été choisis ou qui sont assez uniques dans leur... Donc voilà, c'est vrai que je raconte ça, et notamment une certaine pression familiale...
Mais c'est pas facile de rompre avec sa famille.
Ben non, c'est pas facile, ça c'est vrai. C'est très difficile, d'où la nécessité de montrer comment ça se passe.
Comment vous travaillez, Riyad Satouf, pour l'arabe du futur? Quelles sont les étapes d'élaboration d'un album? C'est quoi? C'est d'abord les histoires que vous regroupez, que vous essayez de dialoguer, après vous passez au dessin? Comment ça se passe?
Bah, disons que c'est pas tellement intellectualisé. Je fais une petite chronologie où je me remémore chronologiquement à peu près tout ce que... Je mets sur une feuille tout ce que j'ai en tête, et après j'ordonne, je découpe, je mélange certaines scènes en deux parce que pour faire moins répétitif. Et une fois que j'ai ce qui ressemble à une sorte de structure, je fais un storyboard. Enfin, disons un storyboard, c'est-à-dire je fais des pages dessinées très rapidement au crayon à papier où je dessine et je fais les dialogues en même temps. Tout est écrit en même temps, voilà. Donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai 160 pages storyboardées, au crayon à papier, assez simple. Et j'ai donc une bande dessinée que je peux lire. Et donc je change les choses, je découpe, je remets des trucs, j'enlève, je rajoute. C'est une tambouille. Voilà. Et après, je le fais lire à quelques copains qui sont sans pitié, qui me font des remarques.
Est-ce que l'actualité interfère dans l'écriture de vos souvenirs dessinés, Riyad Satouf?
Eh ben, j'essaie de faire en sorte que non. Voilà, c'est vrai que je.
C'est pas très facile, hein, par les temps qui courent, ben non, et l'actualité
c'est
syrienne.
C'est très difficile, en effet, c'est très compliqué. Mais disons que moi, je parle d'une période qui n'est pas la période actuelle. C'était dans les années 80 que j'habitais là-bas. C'était une autre époque. Et pour moi, c'est vrai que j'essaie d'être honnête avec mes propres souvenirs, voilà. C'est ce qui est le plus important pour moi, en tout cas.
Être honnête, c'est-à-dire ne pas prendre en compte l'actualité d'aujourd'hui, par exemple, pour rester que dans l'époque.
Oui. C'est parfois, ouais. Justement, c'est toujours, je suis toujours un peu étonné quand l'actualité télescope un peu avec ce que je raconte, mais j'essaie de pas trop y porter attention, en fait. Je reste concentré sur ce que je raconte de mes souvenirs et sur l'évolution de cette famille. C'était ça, c'est mon phare, ce que je suis, voilà, depuis le premier volume.
Voilà. Et puis il y a aussi votre éducation, Riyad Satouf, qu'on découvre au fur et à mesure que vous avancez dans vos souvenirs au Moyen-Orient. Et parmi justement vos repères fondamentaux, il y a ceci.
J'ai fait un bon feu. Tu ne veux pas venir te réchauffer? Prenne mon feu. Ils avaient dit que tu viendrais. Un homme du Nord. Un homme d'une très grande force. Un conquérant. Qui deviendra roi un jour de ses propres mains. Que viens-tu chercher?
Un écusson. Un symbole. Peut-être sur un bouclier. Deux serpents dans le même dessin.
Tu dois le mériter, barbare. Oh. 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 Azamora.
Dans la robe du futur, le petit Riyad découvre les contradictions et les failles de son père. Alors, d'autres figures s'imposent à son imaginaire, d'autres héros venus de loin, par exemple lui, c'est-à-dire Conan le barbare, a voulu réserver vraiment une place de choix dans ce tome 3, Riyad Sattou. Ça a été si important pour vous de voir ce film ?
Ben oui, c'est vrai que c'est un film qui est peut-être un peu nanardesque, considéré comme un peu un nanar. Moi, c'est vrai que je l'ai vu en version française en plus, mais ça m'avait extrêmement marqué parce que c'était un film qui présentait le parcours et le cheminement du héros, qui vraiment toutes les étapes sont suivies et avec une grande brutalité et une grande violence qui touchait à quelque chose de très enfantin aussi. C'est que les 35 premières minutes de Conan le Barbare, il n'y a quasiment pas de dialogue. C'est Arnold Schwarzenegger ultra musclé qui tue des gens, qui souffre, ce film m'avait profondément marqué, nous avait marqué avec mes cousins en Syrie. C'est vrai que j'en parle comme figure masculine importante de virilité. Voilà, il y a eu toute une génération qui a eu Steve McQueen. Je crois que ma génération, nous, on a eu Arnold Schwarzenegger et Stallone.
Grâce à la gentillesse d'un loueur de VHS, je suppose.
Oui, voilà, c'est vrai que je raconte ça. On louait des VHS pirates. Enfin, c'était pas des VHS, non, c'était des Betamax et pirates chez un petit loueur à Homs. Et on avait les mêmes goûts de films. Il me conseillait que des films post-apocalyptiques italiens ou des pseudo-films de barbares jusqu'au jour où j'ai vu le père de tous les films de barbares qui est Conan le Barbare, en effet.
Bon. Alors, la violence, c'est aussi comment faire avec, parce que c'est effectivement quelque chose qui attire le petit Riyad et en même temps, il apprend que autour de lui, la violence peut toucher des personnes aussi importantes que son père. Quand le père raconte son enfance au petit Riyad, c'est vrai qu'il est terrorisé par tant de violences vécues.
Mais disons que je trouve ça toujours intéressant, les adultes qui racontent des histoires aux enfants. Par exemple, c'est quelque chose d'assez important dans l'Arabe du futur. Et c'est pas seulement le père qui raconte à l'enfant ses propres souvenirs, c'est aussi la grand-mère française, c'est aussi les cousins, enfin chacun, c'est la transmission d'adulte à enfant de valeurs morales, mais aussi de violence et d'histoires violentes. C'est-à-dire quand on considère qu'une histoire qu'on va raconter à un enfant est tout à fait normale alors qu'elle est très très violente, mais que c'est la vie, il y a une visualisation qui se crée dans l'esprit. Tout comme quand j'étais enfant, je me rappelle quand mon père me racontait ses histoires de jeunesse, parce qu'il avait grandi dans un univers très très pauvre de paysans et où les gens avaient une expérience de vie extrêmement extrêmement courte, et il a d'ailleurs perdu deux frères. Et j'avais des images, en fait, je voyais extrêmement clairement les trucs qu'il me racontait. Parce que lui-même, quand il me racontait ça, revivait en fait ses souvenirs. Et notamment tous les souvenirs un peu surnaturels, paranormaux, les phénomènes qu'il me disait avoir vécu, moi, j'y croyais à mort, sans jamais les avoir vus.
Et puis cette violence, vous la découvrez aussi en passant vos vacances en Bretagne.
Ah, faut pas raconter, c'est un spoiler.
Non, mais sans raconter ça, est-ce que c'est le moment où le petit Riyad découvre qu'il faut absolument faire avec la violence du monde, que ça peut être tout à la fois spectaculaire, jouissif, en voyant ses héros à la télévision, mais que ça peut être aussi un monde qui va s'imposer à lui, que ce soit vis-à-vis de ses petits copains à l'école. Rien n'est facile pour lui, c'est-à-dire la violence, elle est là au quotidien.
Bah, disons que la violence est aussi une question d'interprétation, par exemple, parce que le fait de manger un steak, par exemple, ça peut être très violent parce qu'on a tué un animal pour manger ce steak, que l'animal a souffert et qu'il avait une mère, un père. Enfin, on vit dans la nature est une violence permanente dans tous les sens, donc il faut s'habituer à ça, et en effet une partie du cheminement de grandir est d'accepter aussi la violence, enfin de vivre avec et d'essayer de l'amoindrir, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai gardé assez clairement de mon enfance, c'est cette cette prise de conscience de devoir accepter la violence et de ne pas s'arrêter à chaque fois qu'un truc violent, ne pas pouvoir s'en remettre, je sais pas comment.
Et puis se poser l'autre question qui va avec, d'ailleurs, très souvent, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Et donc toutes les questions d'ordre religieuse sont présentes déjà dans ce livre.
Non, mais tout à fait. Et c'est vrai que pour moi, c'était important d'aborder ça, notamment au travers des mythes de l'enfance, notamment le Père Noël, la petite souris. Voilà, je parle de ça. Pour moi, c'était des phénomènes paranormaux surnaturels qui avaient une réalité concrète absolue. C'est-à-dire, je ne pouvais pas penser, ça existait vraiment, puisque quand venait Noël, il y avait des cadeaux qui apparaissaient sous le sapin. Donc pour moi, j'ai passé des jours et des jours et des jours à réfléchir à ce mystère, etc. Et c'est vrai que de mettre ça en parallèle avec la foi, la religion, ça me semblait plus dur à accepter, parce que je ne voyais pas les manifestations concrètes de l'existence de forces paranormales divine ou autre chose comme ça. Donc voilà, je raconte ça dans le livre, la réflexion enfantine autour de la naissance ou de la non-naissance de la foi.
Et puis, en revanche, il y avait quelqu'un qui jouait le rôle de votre prophète. Si Conan vous a beaucoup marqué, lui, il vous a beaucoup accompagné.
علي بطل جديد هيا بر يا جراندايزر عدوك فاحذر سلح نفسك قادر في الدفاع لأجل سلام فوق الأرض في كل الأصقاع.
Vous l'avez vu en version doublée en arabe.
Version là, exact.
Avec la belle musique avec.
Hyper bien, j'avais oublié, il chante hyper bien le mec.
Ouais. Et qu'est-ce qui représentait pour vous Goldorak ?
C'était un dessin animé qu'on voyait. En fait, Goldorak, j'en ai revu il n'y a pas longtemps des épisodes. Sans trop dévoiler ce qui se passe dans le livre, mais quand j'écrivais cette histoire, je me suis re-regardé quelques épisodes. Et une chose m'a marqué, c'est que tous les épisodes sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que l'intrigue, il n'y a pas d'intrigue en fait. C'est chaque épisode est une répétition de l'épisode d'avant avec un monstre différent. C'est-à-dire Goldorak est dans sa base, il y a un monstre venu de l'espace qui vient, qui attaque la Terre. Goldorak attaque le monstre, le tue et il gagne. Et voilà, et on attend l'épisode d'après où c'est toujours la même chose. Sauf une fois dans les 150 épisodes, il y a une seule fois où il tombe sur un monstre plus fort que lui qui lui arrache le bras. Je sais que quand ce truc-là s'est passé, eh bien c'était comme si quelqu'un de ma famille s'était fait arracher le bras. Je me rappelle, c'est un monstre singe, mais je préfère ne pas trop en parler.
Et si vous l'avez déjà entre les mains, sachez que aujourd'hui, Riyad Satouf va être en public au théâtre Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire au musée du Quai Branly. C'est d'ailleurs vous qui avez fait l'affiche des 10 ans du musée, Riyad Satouf.
Oui, c'est un musée que j'adore.
Pourquoi ?
En fait, je trouve ça. Depuis l'ouverture, j'y vais très souvent et je trouve déjà que c'est. La présentation est magnifique. Ce que j'aime, c'est que quand on va là-bas, on a un sentiment de fraternité très puissant entre les cultures humaines. Et ça devient concret quand on est dans ce lieu, parce qu'en fait, que ce soit les sculptures africaines ou les sculptures amérindiennes ou les sculptures indiennes, on a l'impression que c'est fait par elles ont des points communs extrêmement forts, alors que ce sont des cultures qui étaient séparées par des milliers de kilomètres et qui ne se touchaient pas. Et je trouve que si j'étais un extraterrestre et que je débarquais au musée du Quai Branly, on voit bien ce qu'est l'espèce humaine.
Merci Riyad Satouf.
Merci à vous
d'être passé ce matin et merci pour le dessin que vous nous laissez.
Merci
pour
beaucoup.
Pas de double. Émilie, c'est à vous.